Direct en jeu, la radio insolite. Voilà un sujet qui concerne tout le monde, qui peut concerner tout le monde, sur lequel il faut faire toujours attention et tout. On va parler d'une pièce intense et émouvante qui plonge au cœur du handicap et ouvre les yeux sur l'essentiel. Et là, vraiment, je tiens à te remercier d'accepter d'être là en ce matin assez conséquent, puisque j'ai le plaisir d'être avec Rebecca Château. Bonjour Rebecca.
Bonjour Alain.
Alors, tu as un parcours qui sort un peu de l'ordinaire, toi, parce que tu as fait des choses un peu différentes du traditionnel.
Exactement. Moi, je viens de base du milieu de la mode et du luxe.
Bah oui.
J'étais attachée de presse pendant plusieurs années pour une grande maison de mode qui s'appelle Asdin Alaya. Mmh. Après avoir suivi des études de stylisme et de modélisme.
Ben voilà.
Et puis, c'était une très belle expérience. Mmh. Et par la suite, bon, le Covid est arrivé. Et j'ai décidé de changer de voie, de tout reprendre à zéro et de m'inscrire dans une école de théâtre et de cinéma où j'ai poursuivi ma voie. Et là, ça fait 5 ans que je suis comédienne. Voilà.
Alors, quand tu choisis ton école, carrément, c'est une école d'art dramatique que tu choisis.
Exactement, l'école s'appelle Le Foyer, mmh. On a eu des intervenants et des intervenantes formidables, dont Béatrice Agenin, Maxime Daboville, Delphine Depardieu, des grands noms du métier, et c'était une grande chance pour moi qu'ils m'accompagnent dans ce nouveau métier.
D'accord. Mais alors pourquoi art dramatique, c'était ton inspiration, ça t'inspirait plus ?
Alors, j'ai toujours voulu faire ça depuis toute petite, pour être complètement transparente. Mais c'est vrai que je viens d'une famille d'artistes, donc il était un peu difficile pour moi à l'époque de trouver ma place. Et en même temps, la mode et le costume, c'était vraiment d'autres passions. Donc, c'est vrai que j'ai commencé par cette voie-là pour ensuite me retrouver, avec peut-être plus de maturité, me lancer dans une carrière d'art dramatique.
D'accord, parce que ce qui est original, c'est que une des premières présences sur scène que tu as eues, c'était un spectacle qui s'appelle La Folle de Chaillot. Et là, on est plus dans le côté un peu comédie de boulevard.
Voilà, c'était complètement différent de Crystal Clear aujourd'hui. Mm-hmm. On était une troupe, on s'est rencontrés en école de théâtre, au foyer. Mm-hmm. Et puis, on a Margot Vicard, la metteuse en scène et comédienne, nous a réunis. Pour monter une réécriture de La Folle de Chaillot. Et ça a été une expérience formidable parce que c'était nos débuts à toutes et à tous sur scène. Et on a quand même fait une quarantaine de dates. Mm-hmm. Donc c'était vraiment une très belle expérience. Une très belle expérience, oui.
Et après, tu te retrouves avec un dénommé Jérôme Commandeur. Un peu connu quand même.
Oui, sur Canal+. Alors ça, c'était mon premier vrai grand tournage. Mm-hmm. Avec Jérôme, qui est un homme inspirant, avec beaucoup de talent. Mm-hmm. Et c'était un épisode sur la Star Academy. Et c'était très comique. Et j'ai eu beaucoup de plaisir aussi à danser, chanter. Il y avait des répétitions de danse, des enregistrements de voix. Et c'est vrai que c'était, j'en garde un très bon souvenir de côté image.
Ah, parce que tu chantes aussi. Moi, j'avais pas l'info, dis donc.
Alors, pas en professionnel, mais j'essaie de prendre des cours pour peut-être un jour m'ouvrir à cette discipline-là.
Ouais. Alors, tu te diriges tout droit vers un spectacle qui va se jouer en Avignon. Et là, attention, c'est pas n'importe quoi. Mais alors, ce qui me surprend, c'est que c'est un spectacle qui est un peu... qui est vrai, sincère, authentique, mais qui est quand même... il faut le jouer, hein.
Il faut le jouer, mais je pense et on pense, toute l'équipe, que quand ça nous touche d'une manière viscérale et organique, c'est sincère et on espère que ça va, comme nous, que ça va toucher le plus de personnes possible. C'est un projet qui nous tient à cœur, avec un sujet, comme tu l'as dit, qui est important. Et on a vraiment hâte de le défendre en Avignon cet été.
Oui, c'est comme la première réaction que j'ai eue, c'est de dire vous vous attaquez quand même à un des sens de l'être humain, c'est la vue en particulier.
Exactement, et surtout de se dire que c'est universel. On n'y pense pas forcément au quotidien, mais ça peut toucher tout le monde, toutes les générations, que ce soit vraiment des jeunes, des enfants. aux personnes plus âgées, bien évidemment, qui ont peut-être peur d'être confrontées à un moment dans leur vie à la perte de la vue et à la déficience visuelle. Donc vraiment, c'est un thème qui nous regroupe, qui nous rassemble, qui nous questionne et oui, et qui est forcément qui nous touche. En plus de ça, il y a le thème central qui est l'amour, encore plus universel dans la pièce.
Une chose qui m'a un peu surprise, c'est que la mise en scène, elle date de l'ancien siècle et de l'ancien millénaire, 1995 d'après les infos que j'ai.
Oui, alors c'est Thierry Harcourt, le metteur en scène, qui avait monté cette pièce à Londres en 1995, et il a décidé de la pour 2025, parce qu'on a commencé en 2025, 2026, de la traduire, de l'adapter en français, car l'auteur s'appelle Phil Young, c'est un auteur britannique, et il a décidé de réunir, de constituer une nouvelle équipe et de monter Crystal Clear en France, et particulièrement en création pour Avignon.
D'accord. Vous êtes trois, en fait, sur scène.
On est trois sur le plateau. Donc, je joue avec Clara Huet, Jean-Nicolas Guette. Et pour Avignon, on a aussi, la dernière semaine, en alternance avec Clara, une autre jeune comédienne qui s'appelle Paloma Duchesne. Et donc, on est quatre en alternance. Voilà. Et c'est une très, très belle équipe.
C'est quoi? C'est une pièce, un message? C'est pour dire attention, faites attention à votre santé, ou il y a une autre inspiration?
Pas particulièrement, mais pas du tout, je pense, dans cette dynamique de... Enfin, je comprends bien évidemment ce que tu me poses comme question, mais dans le sens où il n'y a pas forcément une prise de position, c'est plus ouvert à des questionnements. Je trouve que c'est important aussi dans le théâtre d'avoir une sorte d'ouverture d'esprit et de questionnement quand on sort d'une pièce. Je pense que c'est là où c'est le plus fort, peut-être ça remue quelque chose à l'intérieur de nous. Mais en effet, c'est une prise de conscience plutôt, des questionnements, ça résonne en nous, je dirais.
Parce que j'en ai discuté avec quelqu'un ce matin qui me disait, c'est vrai que le sujet fait un peu peur quand même.
Ça peut faire peur parce que je pense, hein, ça remue quelque chose en nous. Parfois, il y a des sujets auxquels on n'est pas forcément confronté quotidiennement, qu'on ne connaît pas. Donc là, on va avoir un peu peur, comme tout dans la vie, hein, comme tout, plein de choses. Et puis après, je pense que les premières minutes, peut-être certaines personnes peuvent être un peu... se poser des questions, ça fait peur. Et puis après, au fur et à mesure, comme c'est une pièce aussi qui est à la fois dans l'émotion, mais à la fois on rit, on peut rire beaucoup. Alors ça peut être des vrais rires comme des rires un peu de gêne et de questionnement. Mais au fur et à mesure, voilà, on se laisse emporter dans cette histoire, dans ce triangle amoureux, et la nécessité de parler de l'inclusion et du handicap aujourd'hui. Et je pense j'espère qu'on n'en sort pas... On ne sort pas indemne, quoi.
Alors, ce que j'ai trouvé original, c'est les soutiens qu'ont la pièce. Les soutiens, c'est conséquent, quand même.
Oui, alors on a... Là, ça fait à peu près 2 ans, quand même, qu'on travaille sur le projet avec toute l'équipe et avec Thierry Harcourt et aussi Christophe Paris, notre producteur et diffuseur, qui nous accompagne. Et c'est vrai qu'on a eu, dès les premières lectures, en parler avec des personnes... On a été mise en relation avec d'autres personnes qui nous ont aidées. Je pense notamment à Hélène Jousse, qui est une autrice et sculptrice formidable, qui nous a, elle, mis en contact assez rapidement avec l'EBU. Donc l'EBU, c'est le European Blind Union, en anglais, qui a été fondée, entre autres, par Lars Bosselmann. Et lui a tout de suite été un grand soutien pour nous. Et puis après, on a eu le soutien aussi de l'INJA. Je pense aussi à la Fédération des jeunes aveugles et amblyopes de France. Donc voilà, on a eu bien sûr aussi l'Institut de la Vision, où ils ont été un grand soutien aussi pour nous. Donc c'est vrai qu'on a travaillé avec ces associations, et puis pour nous, c'était vraiment très important. Ça nous tenait à cœur de ne pas défendre uniquement une pièce sur le handicap, sur la cécité, et sur le l'inclusion, mais aussi de travailler avec, on va dire, avec des acteurs et des actrices qui sont sur le terrain et qui peuvent partager leur quotidien, nous faire rencontrer des non-voyants, des déficients visuels et d'être plus proche de la vérité. Pas juste simplement de traiter la pièce en surface, mais en tout cas d'essayer, de tenter d'aller au plus proche, oui, d'une vérité, et pour que cela devienne nécessaire.
J'ai bien aimé, il y a une présentation qu'on trouve sur la toile qui dit que la pièce a un objectif, c'est de donner une meilleure visibilité du handicap. J'ai bien aimé quand même le fait de parler de la vue et de l'autre côté de parler du fait de la mettre un peu plus en lumière, quoi.
Exactement, et c'est vrai que Thierry Harcourt, le metteur en scène, en parlant avec toutes ces associations au cours de différentes lectures qu'on a organisées, c'est vrai qu'il a été question, pendant la pièce, d'intégrer d'une manière théâtrale, mais à la fois réaliste, de l'audiodescription non numérique, qui est vraiment partie intégrante de la mise en scène, ce qui fait que, en tant que spectateur et spectatrice, à la fois, donc, on a des personnes qui voient, et puis à la fois, on peut avoir, bien sûr, dans le public, de nombreux non-voyants ou déficients visuels qui peuvent assister d'une manière limite au même seuil, au niveau de, enfin, d'une manière égale, on va dire, pardon, grâce à cette audiodescription numérique qui est intégrée. Donc ça, on trouvait ça très intéressant que tout le monde soit au même niveau.
Tout à fait, et ça me fait un peu penser un petit clin d'œil aux responsables de l'association Souffleurs d'Images qui interviennent sur le festival Audiovision dans le 6e arrondissement à Lyon, qui est un festival qui est aussi ouvert à des gens malvoyants ou aveugles et qui permettent à ces gens-là de venir aussi assister au spectacle. Ça n'est pas réservé qu'en manière, j'allais dire entre guillemets, aux bien portants.
Exactement.
Vous allez donc jouer à l'Oriflamme. Vous jouez quand?
Alors, on commence le 3 juillet, donc c'est la veille de l'ouverture officielle du Festival of Avignon. Et après, ce sera du 4 au 25 juillet.
D'accord.
Tous les jours à 16h05 à l'Oriflamme et nous serons en relâche le jeudi.
D'accord, ok. Tu as déjà joué à Avignon?
C'est la première fois.
Et alors?
C'est la première fois, j'ai hâte. Hein? On a hâte.
Et puis, je trouvais dire qu'avant Avignon, il y a quand même une autre étape, dans pas longtemps.
Alors, dis-moi.
Direction le théâtre de la Contrescarpe à Paris, si vous voulez vous faire plaisir, les auditeurs.
Dans quelques jours, exactement, on va jouer à 19h et 21h au Contrescarpe, dans le 5e arrondissement. Donc là, on a deux dates en prévision d'Avignon. Et puis, comme ça va nous permettre de nous remettre bien, bien en jambe avant le festival.
D'accord, donc c'est le 8 juin, 19h21 au théâtre La Contrescarpe à Paris, et sinon, tout droit direction, comme le Festival de l'Avignon, à partir du 3 juillet à 16h05 au théâtre L'Oriflamme. Ben, je vais te remercier d'avoir pris ces quelques minutes pour nous expliquer tout cela, et puis au plaisir de te croiser durant Avignon.
Un grand merci, Alain.
Merci.
Merci.